Radio Okapi.
Le journal Gisèle Cage. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition du journal. Voici le titre, 9e sommet de la CIRGL, une nouvelle impulsion pour la stabilité et la croissance. À Kinshasa, le chef d'État réaffirme leur engagement contre les violences armées et pour une intégration économique durable. Tragédie sur le site minier artisanal de Kawama. L'effondrement d'un pont de fortune à Mulondo fait plusieurs victimes parmi les trésors clandestins. Le bilan reste incertain. Invité du jour, l'anglais oral entre dans l'examen d'État. Le professeur Boutoua Balingene, directeur général de l'ISP Goma, salue l'introduction de l'épreuve orale d'anglais dès l'année scolaire 2025-2026. On revient sur les enjeux de cette réforme. À la une de ce journal, le 9e sommet de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL tenu ce samedi à Kinshasa s'est achevé tard dans la soirée. Le chef d'État et les délégations présentes ont abordé plusieurs dossiers d'intérêt commun visant à stimuler le développement et renforcer l'intégration dans la région. Ils ont également dénoncé les obstacles persistants qui entravent cet élan collectif. Jean Gandou nous propose un retour sur les moments forts de ces sommets.
5 chefs d'État ont pris part à ce 9e sommet. Il s'agit de l'Angolais Joao Lourenço, du Burundais Evariste Ndayishimiye, du Congolais Denis Sassou Nguesso, du Centrafricain Archange Touadéra et de Félix Tshisekedi de la RDC. Les autres pays ont été représentés par des hautes personnalités. Il faut aussi souligner que l'Union africaine l'a été à travers son haut représentant pour la région des Grands Lacs et le secrétaire général des Nations Unies par son envoyé spécial dans cette région. Placé sous le thème « Consolider la paix et la sécurité pour le développement dans la sous-région des Grands Lacs », les experts des États membres avaient déjà déblayé le terrain lors des travaux préliminaires qui ont précédé le sommet. Ils ont condamné les violences des groupes armés qui menacent la paix dans la sous-région. Ils ont appelé au respect de la souveraineté des États et à la non-agression, ainsi qu'au développement de l'intégration régionale. Outre la passation de pouvoir entre le président sortant João Lourenço de l'Angola et l'entrant Félix Tshisekedi de la RDC, il a été également question de la nomination d'un nouveau secrétaire exécutif. Ainsi, l'Angolais João Samuel Kaolo est rompu placé par le Zambien Mobita Luabeloua. Les lieux et la date du prochain sommet seront communiqués par voie diplomatique, ont-ils décidé.
Pour clore ce 9e sommet de la CIRGL, les participants ont adopté une déclaration finale lue par le ministre congolais en charge de l'intégration régionale. Ces documents validés par l'ensemble des délégations présentes résument les engagements pris pour renforcer la coopération et le développement dans la région du Grand Lac. Écoutons à présent Floribert Anzoloni dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou.
Demandons aux États membres de soutenir les efforts visant à désarmer les forces négatives d'origine burundaise, notamment les Red Tabara opérant en RDC. Sur la République centrafricaine, exhortons les États membres à soutenir le gouvernement centrafricain dans la mise en œuvre de l'accord de paix du 19 avril 2025. Sur la RDC, appelons les États membres à continuer de soutenir les processus de paix en RDC, à exiger le retrait sans délai du territoire congolais des troupes du pays agresseur de la République démocratique du Congo, conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu'à condamner la poursuite des hostilités par le mouvement du 23 mars et les alliés Democratic Force ADF. Exhortons tous les acteurs concernés à faciliter la libre circulation des fournitures humanitaires vers les zones touchées en RDC. Sur le Rwanda, exhortons les États membres à soutenir les efforts visant à neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, y compris le concept d'opération de Luanda, CONOPS, approuvé dans l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda.
Pendant ces temps à Doha, le gouvernement congolais et l'alliance Fleuve Congo AFC M23 ont signé ce samedi au Qatar un accord cadre pour une paix globale sous la médiation des autorités qataries. Cet accord s'inscrit dans le cadre du processus de paix en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Bien qu'il ne comporte pas des clauses juridiquement contraignantes, les documents témoignent d'un engagement mutuel à poursuivre les discussions autour de plusieurs protocoles clé, tout en réaffirmant la souveraineté de la RDC. Les grandes lignes de cet accord sont présentées dans ces condensés de Martial Papi Mukeba, mis en voix par Vanessa Nkongolo.
L'accord prévoit un processus global de paix fondé sur le dialogue et la fin des hostilités. Les deux parties réaffirment leur attachement à la Constitution, à l'intégrité territoriale et au respect du droit international humanitaire. Au cœur du texte, le rétablissement de l'autorité de l'État sur tout le territoire national, notamment dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Les prochaines discussions devront définir les étapes, le calendrier et le mécanisme de ces déploiements en associant autorités locales, coutumières et institutions légales. Sur le plan sécuritaire. L'accord prévoit les mesures transitoires pour 5 mois renouvelables et un processus de désarmement, démobilisation et réintégration de groupes armés, tout en neutralisant les groupes étrangers conformément aux normes nationales et internationales. Les parties s'engagent à un cessez-le-feu permanent, à la protection des civils, à la libération de prisonniers et à garantir un accès humanitaire libre et sécurisé. Un état d'urgence humanitaire pourrait être déclaré dans les zones les plus touchées. Le texte met également l'accent sur la gouvernance participative, les réformes institutionnelles et la réouverture progressive des services essentiels. Des élections locales et législatives pourront être organisées lorsque la situation sécuritaire le permettra. Le retour volontaire digne et sécurisé des réfugiés et de personnes déplacées internes constitue une autre priorité. La réconciliation nationale avec un mécanisme vérité, justice et réparation reste également à approfondir. Cet accord cadre restera en vigueur jusqu'à l'adoption d'un accord de paix global basé sur le 8 protocoles à négocier dans les 2 semaines à venir.
Réaction en chaîne après la signature de l'accord cadre de Doha entre le gouvernement congolais et la rébellion AFC M23. Ce document signé samedi dans la capitale qatari vise à encadrer la poursuite des négociations pour une paix globale dans l'est de la RDC. Dans la foulée, les capitales Doha, Kinshasa et Paris ont exprimé leur position sur le réseau social X. Les détails dans ce condensé signé Jude Mister Bilanda.
Ces développements marquent une nouvelle étape importante dans les processus de paix en cours facilités par le Qatar et s'appuient sur la dynamique créée par la déclaration des principes de Doha signée le 19 juillet à Doha, peut-on lire sur les comptes X du ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar. De son côté, dans un communiqué publié ce même samedi sur les comptes X du ministère de la Communication et des Médias, le gouvernement de la RDC salue la signature de l'accord cadre de Doha, une étape décisive vers une paix juste, inclusive et durable dans l'est du pays. Le gouvernement réaffirme que la paix, la sécurité et la prospérité du peuple congolais demeurent sa priorité absolue et qu'il continuera d'agir dans un esprit de dialogue, de responsabilité et de réconciliation nationale pour préserver et consolider l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Enfin, le président français Emmanuel Macron sur son compte X écrit, je cite, « Je salue l'accord signé à Doha entre la RDC et les M23. Après tant de souffrances, une véritable ouverture pour la paix et une lueur d'espoir pour tous. Merci à toutes les parties pour leur esprit constructif et au Qatar pour son rôle déterminant. » Fin des citations.
Alors que les efforts diplomatiques se multiplient pour amener la paix dans l'est de la RDC, la situation sur le terrain reste préoccupante. Au Nord Kivu, de violents affrontements se poursuivent depuis plusieurs jours dans le groupement Nyamaboko 1er, territoire de Masisi. Selon des sources locales, les rebelles de l'AFC M23 et les combattants de Ouazalendo intensifient leurs hostilités. Sur un autre front, de nouveaux combats ont éclaté depuis la nuit dernière dans la colline de Bokumbiro, à territoire de Walikale, où la tension demeure très vive selon les témoignages recueillis sur place. Le point avec Jean Gandou.
Dans la région de Nyamaboko 1er, le M23 a poursuivi ses offensives ce samedi, cherchant à étendre son emprise après avoir pris le contrôle du village de Kazinga, un centre stratégique de la zone. Les rebelles auraient progressé vers plusieurs autres villages, provoquant des déplacements massifs des populations. Des habitants rapportent l'incendie de plusieurs maisons et le pillage d'une structure médicale. À Bukubiroa, dans le groupement d'Ikobo, des sources locales indiquent que les rebelles de l'AFC M23 ont lancé des attaques sur les positions tenues par les milices CMC dans la nuit de samedi à ce dimanche. Cette nouvelle attaque a provoqué une panique et la fuite des habitants dans la forêt et les villages environnants. Selon ces mêmes sources, la situation serait devenue ingérable tant les affrontements sont intenses. Un bilan provisoire fait état de 2 enfants tués et d'une femme blessée. Dans ces 2 zones en proie au combat, la population reste plongée dans l'incertitude, redoutant une nouvelle journée sous la menace des armes. Cette recrudescence des violences aggrave encore une crise humanitaire aiguë.
Lualaba, drame sur un site minier artisanal à Kawama, dans les territoires de Muchacha. Plusieurs creuseurs ont perdu la vie dans l'effondrement d'un pont de fortune sur le site de Mulondo, selon des sources locales. L'accident s'est produit samedi et le bilan exact reste difficile à établir pour l'instant. D'après les premières informations officielles, les victimes seraient des exploitants miniers artisanaux opérant de manière clandestine. Récit des faits avec Paulin Munanga.
D'après certaines sources locales, l'effondrement d'un pont de fortune érigé par des creuseurs clandestins a cédé sous la pression d'une foule d'exploitants miniers artisanaux et a coûté la vie à certains d'entre eux. Ces creuseurs ont érigé ce pont pour franchir une grande tranchée remplie d'eau de pluie et s'introduire ainsi sur les sites miniers privés pour exploiter des minerais clandestinement. D'après des sources, ces exploitants ont entendu des coups de feu tirés vraisemblablement par des hommes armés qui gardent les sites. Ils ont commencé à courir dans tous les sens. Certains se sont précipités vers les ponts improvisés, mais l'ouvrage a cédé. Ils ont chuté dans la tranchée remplie d'eau, provoquant des scènes de chaos. Face à cette situation, le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba s'est rendu sur place pour calmer les creuseurs qui se sont soulevés après la mort de certains d'entre eux. Contacté, le ministre provincial de Mines du Lualaba s'est rendu aussi sur les lieux du drame cet avant-midi et promet de s'exprimer ultérieurement. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, la situation des droits humains reste préoccupante. Entre juillet et fin septembre 2025, 74 cas de violations et abus de droits de l'homme ont été recensés à travers la province, selon un rapport de monitoring publié ce samedi par l'Organisation de défense des droits humains Justice Plus, active dans la région. Le territoire de Djougou concentre à lui seul la majorité des cas en raison de l'activisme persistant de groupes armés et de certains dérapages attribués à des éléments de force de sécurité. Le condensé de ce rapport avec Martial Kizabiamongo.
Ces cas de violation des droits de l'homme sont caractérisés par des meurtres par balles ou machettes et viols de la part des miliciens Kodeko, Zahir, Adef et autres groupes armés. Parmi ces 74 cas répertoriés, Justice Plus parle de 55 cas d'abus des droits de l'homme enregistrés notamment avec l'existence de plusieurs barrières de militaires FRDC sur l'axe routier Bounia Iga Barrière, Nizi, Mungalu, Katoto, Largou, Bounia Mantro, Bounia Kasseni et Chomia. Cette organisation cite également l'abus lié à l'atteinte au droit à la propriété par pillage, extorsion de biens et incendie de maisons. Pour Justice Plus, cette montée des cas de violation des droits de l'homme et abus aux droits humains est due non seulement à l'absence de l'autorité de l'État dans certaines zones, mais aussi à l'impunité des auteurs de tous ces cas. Justice Plus demande à la communauté internationale et à la justice congolaise de renforcer le mécanisme de poursuite en justice de manière plus efficace des auteurs de crimes et d'autres violations des droits de l'homme. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
C'est autour du thème « La jeunesse face à la renaissance de la RDC, enjeux et perspectives » qu'une conférence s'est tenue vendredi à Kinshasa à l'initiative de l'Union des jeunes conscients pour l'émergence sociale, un groupe de réflexion basé dans la capitale. Cette rencontre visait à encourager une implication active des jeunes dans le processus de redressement du pays. Plusieurs intervenants issus de partis politiques de la majorité ont pris part aux échanges. Le compte rendu de Lukinzao, présenté par Josué Kefebe.
Les échanges lors de cette rencontre ont tourné autour de la formation, de l'entrepreneuriat, mais aussi du rôle que les jeunes peuvent jouer comme acteurs de la paix et de la cohésion nationale. Kaska Songo, président du parti politique Mouvement Congo en Avant, les appels à se réveiller et à se prendre en charge pour la renaissance du Congo.
Les groupes armés qui pilulent dans notre pays se basent également sur le fait que la jeunesse vit dans une précarité totale et donc nous avons besoin que cette jeunesse puisse se réveiller, savoir qu'elle doit se prendre en charge, que nous puissions ensemble créer les emplois, créer les entreprises qui créent les emplois. Nous avons également mis un accent sur la lutte contre la corruption car c'est la corruption qui fragilise toutes les institutions de notre pays.
Olivier Ngandou, président des jeunes entrepreneur de la province du Congo central, estime pour sa part que la jeunesse doit lier ses ambitions à la compétence.
Les ambitions sans compétence, c'est un crime. Alors, si nous jeunes, nous avons les ambitions, nous devons annexer ces ambitions avec la compétence pour maintenant développer notre couche entrepreneuriale ou notre jeunesse dans l'ensemble.
Notons que, selon les estimations des Nations Unies de 2023, la jeunesse occupe près de 65% de la population générale en RDC.
Actualité internationale.
À la veille du vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur un projet de résolution américain concernant Gaza, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et plusieurs membres de son gouvernement ont réitéré leur opposition catégorique à la création d'un État palestinien. Ce texte, qui s'appuie sur le plan de paix proposé par Donald Trump, évoque pour la première fois la perspective d'un futur État palestinien, une idée que le gouvernement israélien rejette depuis longtemps. Notre position n'a pas changé. Nous refusons tout État palestinien, quel que soit le territoire, a déclaré Netanyahou en ouvrant le Conseil de ministres ce dimanche.
L'invité.
Une réforme importante dans le système éducatif congolais. Dès l'année scolaire 2025-2026, les finalistes du secondaire seront désormais soumis à une preuve orale d'anglais dans le cadre de l'examen d'État. Cette décision prise le 4 novembre dernier par l'inspection générale de l'éducation et la nouvelle citoyenneté suscite des réactions dans le monde académique. Le professeur Buto Balingene, directeur général de l'ISP Goma, salue cette initiative et nous livre son analyse. Il est au micro de Bernardine Diambo.
DG Buto Balingene, bonjour.
Bonjour madame.
Comment réagissez-vous à la décision de l'inspection générale de l'éducation et nouvelle citoyenneté qui a décidé qu'à partir de cette année scolaire 2025-2026, il y aura une épreuve orale d'anglais dans toutes les options des humanités?
C'est une question qui m'intéresse particulièrement en tant que directeur général d'une institution pédagogique parce que l'anglais aujourd'hui est un élément très important dans le domaine des affaires, le domaine scientifique, technologique, mais aussi dans le domaine du travail, dans les rapports internationaux, la recherche, ainsi de suite. La compétitivité sur le plan mondial, l'anglais occupe une place de choix. D'ailleurs, il y en a qui disent que celui qui ne connaît pas l'anglais est un illettré aujourd'hui. Alors, nous sommes obligés à apprendre cette langue et à la parler. C'est une invitation qui vient à point nommé. D'ailleurs, nous sommes en retard, nous, les Congolais. Les autres pays ont déjà appliqué de telles mesures. Et le ministère a bien réfléchi en imitant cela, parce que c'est ce qui est positif, ce qui est bon, ce qui est progressiste qu'il faut imiter. Apprendre l'anglais, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Comme je disais avant là, tout celui qui ne connaît pas cette langue est considéré comme un illettré. Et nous devons éviter cela.
Quels sont les avantages d'insérer l'anglais dans ces épreuves?
Les avantages sont nombreux. D'abord, comme je disais, sur le plan professionnel, sur le plan scientifique, sur le plan de la recherche, sur le plan des relations, la technologie aujourd'hui, pour la plupart des fois, on utilise l'anglais. Et il faut vraiment, déjà, comme l'a dit le ministère, que la jeunesse soit bien préparée en cette matière. Vous savez que l'anglais ne concerne pas seulement les finalistes de la sixième année. L'ancienne sixième année, aujourd'hui, c'est quatrième année des humanités. Même les autres, je leur adresse le message suivant. Chers amis, élèves même des classes inférieures, chers amis enseignants, chers amis parents et autres, apprenez l'anglais. C'est très important. Venez chez nous, par exemple, à l'ISP où nous organisons des centres. Le monde aujourd'hui est devenu petit. Vous pouvez vous former, vous auto-former. Ce n'est pas seulement à l'école que vous devez apprendre cela. Venez même dans des centres. Nous, à l'ISP de Goma, par exemple, nous organisons un grand centre d'apprentissage d'anglais. Et chaque vendredi, à l'ISP de Goma, c'est une journée réservée à l'anglais. C'est l'anglais pour tous, administratifs, enseignants, et étudiants et autres. Tout le monde parle anglais à l'ISP de Goma chaque vendredi.
Parlez-nous quand même des défis. Selon vous, vous pouvez les ranger en combien de catégories?
Mais il y a quand même des défis, comme vous le dites là. Moi, je les range en trois catégories. Est-ce que les enseignants sont bien préparés pour cela? Deuxième défi, est-ce que le matériel pour organiser l'anglais et cette activité-là de preuve orale, est-ce que le matériel adéquat est prêt? Troisième défi, est-ce que les élèves sont préparés sont bien préparés à cette activité. Parce que si on veut bien faire, il faut aussi préparer les éléments pour que l'on ne perde pas le temps. Sinon, si ces trois défis ne sont pas bien contrôlés, nous risquons de perdre le temps avec cette nouvelle disposition.
Quelles sont les mesures à prendre pour bien matérialiser cette décision?
Les mesures à prendre, comme j'étais en train de le dire, il faut bien préparer les enseignants. Il faut que les matériels soient là. Il faut que les élèves soient bien préparés. Et avec cela, nous allons bien jouir de cette mesure qui est la bienvenue, mais qui doit être contrôlé.
Monsieur le DG Boutoua Balingene, Radio Kapi vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Merci au professeur Boutoua Balingene pour ses éclairages sur cette réforme linguistique dont l'examen d'état une mesure qui, selon lui, pourrait renforcer les compétences linguistiques des élèves congolais et mieux les préparer à un monde de plus en plus globalisé. Nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de nous avoir accompagnés. Nous vous invitons à rester à l'écoute pour nos prochains programmes et à continuer de vous informer avec nous. Prenez soin de vous et à très bientôt.